Sarah s'était rapprochée de la table de jardin. Elle était toujours debout, les mains sur le dossier de sa chaise, en observateur, en arbitre. Elle écoutait d'un air lointain, presque méprisant. J'esquissais un signe de tête dans sa direction, un signe qui pour moi signifiait « On s'en va ?» auquel elle ne répondit pas. J'étais, comme elle sans doute, partagé entre l'envie de connaître la fin de l'histoire et celle d'une certaine honte mêlée de pudeur qui me donnait envie de fuir cet érudit perdu dans ses souvenirs passionnés et révolutionnaires. Morgan ne paraissait pas se rendre compte de nos hésitations. Il semblait trouver tout à fait normal que Sarah reste debout. Il aurait sans doute poursuivi ses réminiscences seul si nous étions partis. Il ne s'interrompait que pour une gorgée de vodka ou un regard poisseux vers le corps de Sarah. La gouvernante n'avait pas reparu. Elle s'était réfugiée à l'intérieur. Elle avait sans doute mieux à faire qu'observer son patron s'enivrer. Azra me demandait de faire jouer mes relations pour obtenir des renseignements sur la détention de son père. Sa mère, m'apprit-elle, envisageait les possibilités les plus folles, que son père ait en réalité mené une double vie, qu'il soit un agent soviétique, etc. Lyautey m'avait vu, depuis son lit d'hôpital, en grande conversation avec un officier bardé de médailles. Sa folie en avait conclu que je connaissais personnellement tous les chefs de la SAVAK. Je n'ai pas détrompé Azra. Je lui ai demandé de venir chez moi pour en parler, ce qu'elle a refusé. Je lui ai proposé de nous retrouver au café Nadéri, lui assurant qu'entre-temps j'aurais enquêté sur la situation de son père. Elle a accepté. Ma joie était sans limite. Nous étions le premier jour du mois de Dei, le solstice d'hiver. Je suis allé à une lecture de poésie. Une jeune femme lisait « Croyons » au début de la saison froide de Follur Fallorzad, et notamment « J'ai de la peine pour le jardin, dont le chagrin simple et profond me gela à l'âme. Je ne sais pas pourquoi. » Je le connais encore à moitié par cœur, ce poème. Cassib efek le golhanist, Cassib efek le mohihanist. Il n'y a personne pour penser aux fleurs, personne pour penser aux poissons, personne ne veut croire que le jardin se meurt. Je suppose que la perspective de revoir Azra m'avait rendu extrêmement sensible à toutes les sollicitations extérieures. La poésie de Forour m'emplissait d'une tristesse de neige. Le jardin abandonné avec son bassin vide et ses mauvaises herbes était le portrait de ma déréliction. Après la lecture, tout le monde a bu un verre. Contrairement à moi, la compagnie était plutôt joyeuse, vibrante d'espoir révolutionnaire. On ne parlait que de la fin du gouvernement militaire et de la possible nomination de Shapur Bhartia, opposant modéré, au poste de Premier ministre. Certains allaient même jusqu'à prédire l'abdication rapide du chat. Beaucoup s'interrogeaient sur les réactions de l'armée. Les généraux tenteraient-ils un coup d'État soutenu par les Américains? Cette hypothèse chilienne effrayait tout le monde. Le souvenir cuisant du renversement de Mossadegh en 1957 était plus présent que jamais. Je tournais en rond dans cette soirée. On me demanda à plusieurs reprises des nouvelles de Laouti. J'éludais la question et changeais vite d'interlocuteur. La plupart des présents, étudiants, jeunes professeurs, écrivains débutants, connaissaient Azra. J'appris par un des convives que depuis le départ de Lyautey, elle ne sortait plus. Je posai quelques questions à un ami de l'ambassade à propos du père d'Azra. Il m'envoya paître immédiatement. Si c'est un Iranien, on ne peut rien faire. Un binational encore, à la limite. En plus, en ce moment, c'est un vrai bordel dans l'administration. On ne saurait même pas à qui s'adresser. Il mentait sans doute. J'ai donc été moi-même contraint au mensonge. Azra s'assit en face de moi au café Nadéri. Elle portait un épais pull en laine à chevrons,